Autre radio, autre culture, bonsoir. Nous recevons ce soir Rodolphe Raffali, guitariste. Est-ce qu'on peut appeler guitariste manouche? Ou tu es dans cette catégorie-là, ou tu as une catégorie beaucoup plus large?
Non, guitariste d'univers.
D'univers.
Voilà, entre autres jazz manouche, mais ça peut être autre chose aussi.
Alors tu as commencé la guitare à 8 ans, qu'est-ce qui t'a amené à cet instrument?
Un problème de cordon ombilical au début, et c'était ça ou c'était la catastrophe. Donc la guitare a aidé à soigner les tripes, enfin les boyaux. C'est une histoire de nombril en fait.
Ah.
Puisqu'en fait j'ai commencé à marcher à l'âge de 2 ans et demi. Quand on est bébé, ben voilà, après c'est difficile de rattraper les autres si on est en retard.
Mm-hmm.
Donc allez, après ça m'a suivi à l'école, tout ça. Et c'est la guitare qui m'a sauvé. Voilà, donc c'est une prothèse en fait. Mais j'aime la musique, il n'y a pas de problème.
Elle fait partie de toi donc cette guitare?
Ouais, moi je ne peux pas vivre au bout d'une semaine si je ne joue pas de guitare. Il faut que j'aille voir un médecin quoi.
Ça va plus. Et tu as commencé...
Mais je pense que je ne suis pas le seul, hein, les artistes ouais. En général, soit les peintres dans tous les domaines, chacun a ses problèmes. Je veux dire, on choisit son métier par rapport à ses possibilités d'existence. Voilà. J'aime la guitare.
À partir de 8 ans, donc, tu t'es mis à la guitare. Est-ce que tu l'as étudié tout seul, comme ça, ou tu as suivi un enseignement?
Non, j'ai fait l'école buissonnière. Après, je suis parti vers l'âge de 13 ans. Jouer dans des pizzerias, des cabarets sud-américains avec des musiciens d'Amérique latine qui m'avaient accepté et qui m'invitaient à jouer avec eux sur le tas. C'était la vieille école, comme avec les vieux gitans. C'est-à-dire que quand ils sentent que il y a un don, il y a une prédisposition, on est bien reçu et après il faut développer. C'était l'ancienne école. Alors qu'aujourd'hui, on prend des cours de guitare, on prend des méthodes. Et la meilleure méthode à l'époque, c'était d'aller voir des grands musiciens et d'essayer de s'entendre avec eux. De toute façon, c'est un partage.
Il fallait quand même, de toute façon, avoir un minimum de dons pour pouvoir être accepté par ces grands musiciens.
Oui, il fallait être prêt, parce qu'ils ne faisaient pas de cadeaux. Hein. Il fallait arriver avec quelque chose pour pouvoir communiquer. C'était comme ça. Alors qu'aujourd'hui, on peut arriver avec rien, mais si on a l'argent, si on a la passion, tout ça, on s'imagine qu'on peut y arriver. Mais je pense qu'il faut respecter les vieux musiciens. Aujourd'hui, on les respecte pas. On les traite comme si c'était des égal à égal, quoi. Alors que, je sais pas, c'est comme un personnage bardé de diplômes. J'en ai vu un l'autre jour qui vendait des croissants. Alors bon, parce qu'il... Et pas qualifié. Alors qu'en fait, il est très qualifié.
C'est le problème actuellement de tout mettre au niveau du diplôme et de ne pas voir à côté.
C'est partout pareil. Les gens qui ont des grosses têtes, qui sont bardés de diplômes et qui sont SDF. Hein.
Oui, tout à fait.
Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fout, quoi. Sauf si on se manifeste. Vous êtes intelligent, enfin vous avez une culture, prouvez-le, quoi. Ça ne suffit pas de dire, j'ai un diplôme, respectez-moi. Mais non, ben, vas-y, exprime-toi. C'est ce que je fais. Moi, j'ai pas de diplôme, mais voilà. J'ai le diplôme de la rue piétonne, quoi.
Quand tu étais tout jeune, comme ça, à l'âge de 12-13 ans, et tu commençais à aller dans les cafés latinos, tu jouais beaucoup de la guitare tout seul, en dehors?
Non, mais c'est ce que j'ai expliqué. C'est que c'est une prothèse.
Donc, tu en jouais tout le temps?
Si j'avais pas joué de guitare, je pense que je me serais suicidé, ou je sais pas, enfin, un truc comme ça, quoi. Faut le dire, hein. La preuve, c'est qu'au bout d'une semaine, si je ne joue pas de guitare, je suis malade. Donc il y a un problème avec la guitare, je sais pas, les cordes, les trucs, tout ça. Et la musique.
T'as pas eu une idée comme, je dirais, une idée Boris Vianesque, de te coudre une guitare sur le ventre?
Non, parce qu'en fait, c'est vraiment une prothèse, quoi. On est collé à ce truc-là, quoi. Parce qu'on se dit, tiens, j'ai plus... Déjà, quand je perds de vue ma guitare, je me dis, ça y est, je vais mourir. C'est un outil de travail. Au Mexique, là, les coupeurs de canne à sucre, il paraît qu'ils dorment dans le champ où ils coupent le sucre la journée. Enfin, les cannes à sucre. Et ils dorment avec leur machette. Voilà. C'est un peu moins poétique. Mais c'est pour montrer que c'est vraiment un outil de travail indispensable pour subsister. Et c'est pas du tout intellectualisé par rapport à des conservatoires ou des choses préfabriquées. C'est un ressenti, et après il faut se débrouiller pour quand même respecter les valeurs. C'est une forme de liberté musicale qui est peut-être pas très appréciée par les juristes dans les tribunaux de musique où on apprend la musique bêtement pour devenir intelligent. Mais moi j'ai appris à jouer dans la rue, dans les bistrots, dans les cafés. Dans les années 80, il y avait les plus grands musiciens brésiliens qui essayaient de s'installer ici parce qu'ils avaient, avec leur talent, c'était possible. La mode est passée, ils ont disparu, ils sont repartis. C'était pareil avec les latinos. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. J'en ai profité. J'ai vécu avec ces gens-là. C'est des gens qui jouaient de la musique merveilleusement. Il y avait des grands guitaristes, il y en avait partout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas trop se la ramener, parce qu'il y avait vraiment d'excellents musiciens dans les années 80 qui étaient à Paris, qui ont tenté de rester ici, mais qui sont partis parce que personne n'y comprenait rien, sauf moi. Parce que j'aime la guitare. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit oui, d'accord. Il y en a d'autres qui sont décédés. Les guitares d'or mondial comme Martin Torres, qui était très très grand guitariste argentin. Et voilà, Baden Powell aussi. C'est Saint-Germain-des-Prés. Donc moi, je continue le mouvement. J'ai toujours été Saint-Germain-des-Prés.
Tu te sens ancré dans ce quartier de Saint-Germain?
Ah ben oui, c'est là que j'ai tout appris. Je ne risque pas de le quitter, le quartier. C'est mon cerveau.
Tu penses qu'il existe toujours et il y aura toujours cette espèce de aura, cette espèce de sensibilité au niveau musical qu'il y avait à Saint-Germain?
Ça va paraître mégalo, mais ouais, si je continue à œuvrer, oui. Et s'il y en a d'autres qui suivent, je m'appelle pas Coluche, mais c'est un peu le même truc, mais dans la musique. C'est-à-dire, les bons sont bons, on ne veut pas savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est bon, on s'en fout. Il y en a marre de penser qu'on a étudié, donc j'emmerde mon voisin parce que j'ai un diplôme. C'est pas possible, il n'y en a pas. Le diplôme, il n'existe pas. C'est un bout de papier. Alors, le plaisir existe, voilà. La différence entre... C'est pour ça qu'il y a la guerre sur la planète, que tout le monde ne s'entend pas... Tout le monde a son mot à dire, mais par rapport à des critères qu'on ne peut pas vérifier. Alors qu'un musicien, s'il joue bien, on peut voir tout de suite. Hein. C'est de la merde ce que tu fais ou c'est bien. Voilà, moi j'œuvre dans ce sens-là. Quoi. Faire plaisir aux gens, sans les embêter, même si c'est faux, même si c'est pas terrible. Quand vous avez un sourire en face de vous, c'est toujours bien. Enfin, je suis un poète, moi, je suis pas trop musicien en fait.
C'est pour ça que j'aime bien Georges Brassens. Musique, maintenant tu me dis que t'es poète.
Ouais, non, parce que j'ai un problème avec la musique, c'est que comme je suis pas diplômé, reconnu, ni professeur de musique, ni rien, évidemment, je vais en prendre plein la gueule par ceux qui sont reconnus. Parce que ça va être très difficile de lutter, parce que comment on peut comparer avec la poésie et la mathématique? C'est pas possible. Ou on fait de la poésie, ou on fait des maths. Alors, je sais pas. Il paraît qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont partis aux États-Unis parce que là-bas, ils avaient compris ça. Mais en France, c'est quand même assez délicat parce que je respecte le travail des artistes, mais ça veut pas dire que ça me plaît. Hein. Ça veut pas dire... Je suis pas obligé d'adhérer. Je ressens ce que je ressens. Je reconnais le travail et tout, avec le respect et tout, mais il faut que la musique sorte, quoi. Si on s'emmerde, c'est pas la peine. Enfin, si on s'ennuie, pardon.
Est-ce que tu
es... On fait pas, dans la musique, on ne peut pas faire de la figuration. Ouais. On ne peut pas figurer. Enfin, c'est mon point de vue. Sinon, je ne prends pas la guitare. Je retourne dans mon stage de pâtissier-boulanger, que j'ai raté parce que j'étais quand même le meilleur élève, mais je suis parti une semaine avant pour jouer avec des Colombiens dans une pizzeria, parce qu'en fait, c'était la guitare qui m'intéressait. Enfin, la musique. Il faut être diplomate, voilà. Et je trouve que personne n'est diplomate. Tout le monde est violent. C'est très difficile.
Alors tu apparais comme quelqu'un de très doux, très timide. Tu l'es réellement?
Oui. Je suis pacifique comique. C'est une nouvelle, c'est un nouveau mouvement qui vient d'arriver.
Alors pour ceux qui veulent s'inscrire, allez voir Rodolphe Raffali.
Non, je supporte pas le sérieux, quoi. Je veux dire, il y a des trucs dramatiques dans la vie, vachement plus graves. Putain, il faut se calmer, quoi. On peut vivre, on a le droit de vivre.
Pour en revenir à l'instrument, est-ce que tu es amoureux d'une certaine guitare ou tu l'échanges assez facilement?
Non, là, c'est fini, là.
Tu dis ça...
C'est marrant parce que c'est ma fille aînée qui m'a sorti une photo d'un artiste où il y avait à peu près une centaine de guitares collées. C'est une sculpture, comme un peu ce que faisait César avec les voitures oui. écrasées, tout ça. Et elle me dit, t'as vu ça? C'est impressionnant. J'ai dit, ah bah tiens, c'est marrant, c'est un artiste qui a dû se poser des questions parce qu'en fait, moi j'en ai fait partie, maintenant j'ai arrêté. C'est le fait de changer de guitare parce qu'on pense qu'elle n'est pas bonne.
Ah, ça c'est important.
Ouais. Et alors qu'en fait, tout est faux, la guitare est très bonne, elle vaut très cher, on l'a perdue parce qu'on l'a vendue pas cher, donc on a tout perdu. Et puis, parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas et on s'en prend à la guitare. Cet artiste qui a fait cette sculpture avec une centaine de guitares collées, ça m'a fait plaisir de voir ça parce que ça m'a inspiré.
Il y a eu un déclic ?
Oh oui, parce que moi, toute ma vie, j'ai changé de guitare.
Oui, moi, j'ai des souvenirs où, hop, t'en avais une.
Tout le temps. Mais là, c'est fini. Là, c'est fini. J'ai décidé d'arrêter de m'occuper de ce problème-là. Si la guitare est bonne, il n'y a aucune raison de s'en séparer.
Mais t'es pas tombé amoureux d'une guitare particulière ?
Toutes.
Toutes ?
Ben oui.
Donc t'as eu de nombreuses maîtresses.
Ben c'est comme, même si on pose la question à une femme, elle dira, moi tous les hommes que j'ai eus, je les ai tous aimés, même si ça durait 10 minutes, mais on les a aimés. Et l'homme, il va dire la même chose avec les guitares. Ou les femmes.
Ou les femmes.
Et ou surtout les femmes avant, et les guitares après. Enfin, il y a des comparaisons un peu particulières. De toute façon, la guitare, c'est une forme de...
Oui, déjà, on dit...
Très évocatrice. Ouais. Donc, il y a quelque chose avec ça. Je ne suis pas psychanalyste, mais c'est quand même recherché, quoi.
Tu t'es intéressé à différents courants de musique, dont la guitare, enfin, ce qui était manouche, le swing manouche. Tu t'es intéressé à la musique latino-brésilienne. Est-ce que tu as un feeling particulier pour l'un des mouvements ?
Ben, l'histoire, c'est que je me suis intéressé à rien. J'ai rencontré les bonnes personnes.
Oui. Raconte-nous justement un peu ça.
Ben oui. Par exemple, latino, bon, j'ai rencontré très très grands guitaristes à l'époque. Les Argentins, comme Martin Torres. C'était quand même guitare d'or mondial au Festival de Venise en 1976. Moi, j'avais 13 ans. Quand j'étais en face et qu'il était en train de jouer, j'étais en train de fondre comme un flan, quoi, au soleil. Donc voilà, c'est impressionnant. Ce que je veux dire, c'est que quand on veut apprendre à jouer de la musique, il faut aller vers les grands musiciens et surtout éviter de se la ramener, parce que de toute façon, il n'y aura pas de cadeau. Voilà, moi, c'est la leçon que j'ai prise. Souvent, moi, j'ai des jeunes qui viennent me voir et qui me parlent violemment comme ça... Ouais, tu donnes pas des cours, toi. Non, du calme. Hein. Dit comme ça, je risque pas de filer des cours. De toute façon, je veux dire, c'est pas comme ça, quoi. Je les ai côtoyés. Il n'y a jamais une histoire de cours. Hein. On allait les écouter, on s'imprégnait. Après, on rentrait à la maison, on s'essayait pour savoir si ça ressemblait à peu près à ce qui était joli qu'on avait entendu avant, quoi.
Ouais, donc on faisait.
Mais on n'embêtait pas la personne, on la dérangeait pas.
Ouais, tu travaillais tout à l'oreille.
Bah oui, non, mais c'est surtout que les artistes, il faut les laisser dans leur univers, il ne faut pas les déranger. Puisqu'ils ne dérangent pas grand monde, finalement, ils font du plaisir. Bah pourquoi on va les bousculer, les provoquer, tout ça? Ils sont indispensables à l'équilibre social.
Alors, il paraît que tu as traversé une période où tu t'es beaucoup intéressé à tout ce qui était la musique classique.
Mmh.
Qu'est-ce que cela t'a apporté dans ton jeu et dans ta façon de concevoir tes mélodies?
C'est un peu abstrait comme question.
Oui, non, mais...
Parce que, non, j'ai eu la chance, en fait, je suis né, je devais naître dans le sud de la France. Ma mère a commencé à perdre les os dans la deux chevaux en plein déménagement, en allant sur Meaux.
Oui.
Donc je suis né dans presque un monastère de sœurs, sur la route, parce qu'on passait voir des amis, et j'aurais dû naître à Nice. Mais après... Je suis parti directement en Afrique, en Guinée, parce que mon père était prof. Et ce qui fait que j'ai vécu une grosse partie de mon enfance en Afrique, avec des rythmes particuliers qui n'existent pas ici, enfin qu'on essaye de faire exister, mais qu'on a du mal à faire reconnaître.
Ça t'a marqué, influencé?
Bah, c'est l'histoire du jazz, merde,
oui,
Louis Armstrong.
Tout à fait, mais est-ce que ça t'a influencé, toi?
Mais bien sûr, parce que j'étais sur les genoux de ma mère... Quand j'étais gros comme un cornichon, dans les nichons de ma mère en train d'écouter Louis Armstrong au Caire, dans une salle de concert, et j'avais 1 an.
Oui, d'accord.
Et il jouait Saint Louis Blues. Mm. Et c'est pas des blagues, parce que quand j'entends la version, j'ai la chair de poule, parce que ça m'évoque. C'est une direction vers le jazz, quoi. Mais quand on le vit en Afrique, c'est pas la même chose qu'ici. Il n'y a pas de snobisme, quoi. Parce que Louis Armstrong, il voulait toujours retrouver ses racines. Donc il revenait, il a fait beaucoup de concerts en Afrique. Puis après, j'étais dans la Casbah à Alger. Donc c'était la musique orientale. Ce qui fait que pour moi, c'est très difficile, ici, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Parce qu'on entend beaucoup de choses, mais on ne peut pas les réaliser parce qu'on ne peut pas expliquer à l'autre ce qu'on a vécu. Mm-hmm. Alors c'est très compliqué. Puis comme je suis un petit peu autiste, ça n'arrange pas le truc, quoi.
Un autiste qui parle beaucoup.
Non, là je parle parce qu'il faut me faire parler, mais sinon je ne dis pas un mot. Moi,
je dois être dans les privilégiés.
Sinon, j'essaye de dire les choses en musique, c'est tout. Il ne faut pas embêter les gens. Sauf si on vous demande de...
En 2001, tu sors un premier disque chez Frémo, qui est sur la chanson de Brassens. Alors, comment est venue l'idée ?
Ah ben ça, c'est quand je faisais l'école buissonnière avec des collègues. Donc c'était Feu de bois dans la forêt, dans le Jura, chanson de Brassens, grillade. C'était des ciganes de Polonia. Le frère aîné, fan de Johnny Hallyday, donc Santiago, Perfecto, tout. Et le petit frère, fanat de Brassens. Et super doué à la guitare. Ce qui fait que toutes ces chansons de Brassens étaient rabâchées tous les jours, tous les soirs, parfois jusqu'au petit matin. Hein. Donc c'est resté dans ma tête. Et puis c'est quand j'ai rencontré le secrétaire de Georges Brassens, Gibraltar, dans une soirée, enfin un cocktail, où on jouait. Il dit « Pourquoi vous ne jouez pas du Brassens façon de Django Reinhardt ?» Je dis « Mais je le fais déjà, mais on fait 2 ou 3 morceaux, c'est tout. » Il dit « Mais pourquoi pas faire un album entier ?» Ah, j'ai dit, mais si, mais on me l'a jamais proposé. Eh ben, faites-le. Ben oui, ben, de toute façon, je sais que ça marche, hein, mais comme on me le propose pas, je le fais pas. Mais je sais très bien que ça marche, puisque juste avec les 2-3 chansons de Brassens, ça a toujours marché. Pourquoi pas en faire 15 ou 20, voilà. Et c'est ce qu'on a fait, ça a très bien marché. Parce que c'était que des chansons qu'on avait mémorisées déjà depuis l'enfance, quoi. C'est complètement ancré, quoi.
Effectivement, ce premier disque de Brassens a été disque d'or, a été dans les meilleures ventes de jazz à la Fnac. On en ressort comment ? Quand on voit que ça marche bien et
ça me fait rien, parce que je savais que ça marcherait.
Ça, c'est la philosophie. Si vous le voyez, il est là, il est impassible.
Ça va être prétentieux ce que je dis, mais on ne triche pas avec ses sentiments. Je savais, j'ai fait beaucoup de café-concerts depuis très jeune, notamment à Montmartre, sur la place du Tertre. Avec tous les touristes de toute la planète, avec les vieilles ficelles des anciens du métier qui savaient exactement, quand ils voyaient arriver quelqu'un qui passait la porte, ils savaient exactement ce qu'il fallait lui jouer. C'est incroyable. Hein. Mm-hmm. Et ça marchait. Donc je suis dans ce feeling. J'ai appris à savoir ce que les gens veulent, ce qu'ils aiment. Avec des limites, hein, parce que parfois on m'a demandé de faire des trucs un peu bizarres, quoi. Tant qu'on reste dans la musique, la mélodie, le jazz et la musique populaire, on a affaire à beaucoup de monde. Hein. Les gens adorent ça.
Deux ans après, tu sors un deuxième disque qui est plutôt jazz swing avec mm-hmm. Florian Nicolescu.
Florine Nicolescu, ouais. Oui. Très très grand musicien. Et Christian Escoudé.
Alors, vous vous connaissiez depuis longtemps avec Christian ?
Oui. Moi, on n'a pas joué souvent ensemble, mais bon, nous sommes dans les mêmes sphères.
Alors comment
enfin,
ça
dans
fait
le pensée musicale.
Cette participation dans ce disque, il y a eu une complémentarité, comment ça s'est passé ?
Au fil des années, on se croise tout le temps, et puis on avait envie de jouer ensemble, c'est tout. C'est une occasion.
Alors pof, c'est une occasion, on fait un disque.
Hum ?
C'est comme ça.
Ah oui, oui. Bah, dans le jazz, normalement, quand on regarde les collecteurs et tout, il y a plein de disques de jazz, c'est des documents. Hein. C'est pas spécialement des disques avec un grand D. Hein. Ce sont des moments qu'on a retenus, quoi. Après, ça peut aller plus loin, mais il y a toujours cette base-là chez les jazzmen de se rencontrer spontanément.
Alors pourquoi ensuite tu as sorti un deuxième disque de Brassens ? Alors pourquoi avoir continué dans la lignée de Brassens ? Parce que ça avait bien marché ?
Parce qu'on me l'a demandé. On m'a sollicité. On me dit, alors, à quand le volume 2 Brassens ? Mais ça ne fait pas le même effet. Mais ça fait plaisir aussi. C'est une suite. qui est très bien, mais peut-être qu'il faut aller plus vite que ça, quoi. C'est-à-dire, dans la spontanéité, parfois, c'est excellent, et dans le calcul, parfois, ça peut faire l'inverse. Par exemple, le premier, qui est un disque d'or,
oui.
À cette époque-là, j'ai pas touché la guitare pendant un an. C'est quand même incroyable.
Après ?
Mais non, j'étais hospitalisé.
Ah oui, d'accord, oui.
Donc, j'ai pas touché ma guitare pendant un an. Et on a enregistré le disque en 4 après-midi, directement, comme ça. 2 répétitions et 2 après-midi. C'est quand même bizarre. Ce qui revient à dire que la spontanéité, c'est-à-dire ce qu'on ressent a plus d'importance parfois que le côté intellectuel musical.
Alors on dit de toi que tu as une particularité par rapport à d'autres musiciens qui marchent de manière beaucoup plus automatique. Quand tu ressens l'ambiance positive dans une salle, quand tu ressens que tes musiciens sont bons, là tu deviens extraordinaire. Et que tu as tendance, quand tu sens que c'est moyen, tu te mets dans la lignée de ce qui est moyen dans la salle ou
ça rejoint une vérité qui dit, par exemple, chez les manouches, ils sont dans des conventions avec des pasteurs et tout ça maintenant, ils sont évangélistes, je crois. Ça revient à dire, parce que c'est ce qu'on m'avait dit, c'est pas possible, nous, on n'a pas le droit de jouer dans les cafés. On n'a pas le droit de faire de concert par rapport à Dieu. Je sais pas quoi. Et quelque part, il y a une vérité. Ça revient à ce que je viens d'entendre. C'est que si la salle ne se prête pas, s'il faut supporter et endurer une espèce de brouhaha incessant qui confirme le fait que les gens sortent et qu'ils sont pas spécialement sortis pour écouter de la musique, ils sont sortis pour se distraire, mais pas spécialement ciblés sur une musique... C'est une ambiance comme ça. Automatiquement, c'est la lutte. Mmh. André Segovia, on ne pourrait pas l'écouter quoi, dans un contexte comme ça. André Segovia, le grand maître de la guitare classique.
Oui, bien sûr.
Un exemple, ou Baden-Powell. On ne peut pas écouter un musicien dans le bruit. Voilà.
Oui, on est toujours très étonnés d'ailleurs dans les cafés. Il y a des concerts dans certains cafés et les gens viennent.
Ouais, j'y comprends rien. Moi, je trouve que c'est inadmissible.
Et ils parlent, ils s'occupent absolument
ouais,
pas.
Ouais, mais ça leur plaît. Hein. Après, ils viennent, ils vous serrent la main, ils disent c'était super. Puis vous l'avez entendu beugler toute la soirée, sous vos yeux.
Oui.
Je dis, mais je rêve, c'est pas vrai. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il a empêché tout le monde d'écouter, mais il est venu, il me serrait la main pour que je félicite d'avoir passé une bonne soirée en bel égoïste. C'est terrible, ça. Il faudrait leur foutre un PV. Mais non, parce qu'ils cassent tout, quoi. C'est quoi, ce truc-là? Et malheureusement, on a ça tous les jours, quoi. Enfin, tous les jours, assez souvent. Sauf en festival ou salle de concert ou télé. Enfin, je sais pas, les trucs où les gens viennent spécialement pour écouter la musique. Mais sinon, c'est souvent pot de fleurs, quoi.
Oui.
Les musiciens pot de fleurs, c'est-à-dire on a besoin de musiciens, mais c'est pour l'ambiance, on les met dans un coin. C'était déjà ça dans l'histoire du jazz. Hein. C'est pour ça que le jazz est né grâce à ça, parce que ça devenait insupportable à la fin. Et donc le gars, il jouait tellement bien qu'ils étaient tous obligés de se taire à la fin.
C'est là où on se disait, oh, ça
c'est l'histoire du jazz. Hein.
Oui.
Ah ouais.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils ont obligé les gens à les écouter au bout d'un moment avec des techniques musicales d'approche. Très perfectionné, avec la virtuosité, avec pas mal d'esbrouf, des trucs qui peuvent empêcher les gens de se disperser. C'est-à-dire, s'ils sont en face de vous, vous allez les convaincre. Et voilà, la vieille école.
Ça, c'est une sacrée école. Hein.
Ben oui, et c'est pas le conservatoire municipal, faut arrêter. Ou alors on copie Jean-Sébastien Bach, Mozart, et c'est facile. Hein. Il suffit de lire les partitions. Mais ça ennuie les gens. Ça. N'importe qui est capable de faire ça. Mais par contre, d'attraper un public et de jouer, de savoir faire ce qu'il faut. Mmh. Et le reste, on s'en fout, que ce soit du blues, du jazz, de tout ce que vous voulez. C'est pour ça que maintenant, en période de crise économique, on s'aperçoit bien des résultats. C'est que le jazz, tout le monde s'en fout. Et de la musique, tout le monde s'en fout. Maintenant, on veut des émotions. Et ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui s'en foutront aussi, qui vont dire « Moi, je veux te faire plaisir. Alors, tu veux quoi ? J'ai pas la prétention de jouer quelque chose, moi. Mais je suis doué, je peux te jouer quelque chose si tu veux. » Ouais, celui-là, il a gagné. Il vivra longtemps. Mais le jazzman est en voie de disparition.
Tu trouves ?
Ah ouais, c'est clair et net.
Pourtant,
en France, hein.
En France.
Ah ouais, il faut aller ailleurs. Hein. Non, non, mais ici, c'est fini. Hein. C'est trop lourd.
Pourtant, les
festivals... On s'éclate pas. Pourquoi moi, j'écoute des disques... Enfin, j'ai écouté des disques pendant des années. J'ai mes références. Et je veux pas entendre autre chose. Si ça ressemble pas à mes références, ça me détruit, quoi. Je me sens pas bien. Genre, je peux pas faire de l'allégeance. En plus, je suis musicien. J'ai quand même le droit d'aller vers ce que j'aime.
Tout à fait, oui.
Non, mais il y a des gens qui vous imposent des trucs, hein.
De quel style, par exemple?
Aux gens, parce que quand en étant musicien, donc j'ai pas le droit de pas apprécier ça. Mais non, mais oui, si. Non, je suis un être humain, moi. Si ça me fait pas plaisir, ça me fait pas plaisir. Hein. Je préfère une caresse qu'un coup de poing dans la tronche. Hein. Non, mais la musique, c'est ça. C'est chacun ressent ce qu'il veut. Voilà. Et j'ai le désavantage d'être musicien parce qu'on va me reprocher de ne pas apprécier telle formation, va écouter ça. Moi, ils ne viennent pas m'écouter. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est le public. Moi, je n'ai pas un public de musiciens, ça ne m'intéresse pas. Je ne joue pas pour les musiciens.
Il n'y a pas des musiciens qui t'attirent?
Non, je ne joue pas pour les musiciens parce que tous les musiciens se tirent dans les pattes. Alors, ce n'est pas la peine.
Tu ne te dis pas, j'aimerais bien jouer avec lui?
Non, parce que je ne supporte pas les comparaisons ou... Oh, il joue comme Stan Getz, t'as vu, il fait tous les chorus de... Ben, ça va, il joue... Mais alors, il s'appelle Stan Getz, c'est ça? Mais il est décédé depuis combien de temps? C'est pas lui. Faut arrêter, quoi. Ou Django Reinhardt aussi. Il faut respecter ses maîtres, et il faut s'influencer, mais ne jamais copier. Il faut garder les styles, c'est tout, les esprits. Là, on est à Saint-Germain-des-Prés, je me prends pas pour Django Reinhardt, ni pour Henri Crolla, hein. Enfin, bon, c'est un état d'esprit, faut se lancer, quoi. Mais je ne suis pas businessman, je pourrais écrire un bouquin et vendre des méthodes et faire du fric, mais c'est pas mon truc.
Ça te tente pas de faire passer un savoir, non?
J'ai appris par moi-même, c'est ça, je peux transmettre ça, c'est tout. Mais apprenez par vous-même.
Tout le monde peut-être n'en est pas capable.
Parce que je parlais de respect. Quand j'avais 13 ans, c'était monsieur Atahualpa Yupanqui qui était assis à ma gauche et qui me tenait l'épaule en disant « Le petit, il ne faut pas qu'il boive trop de sangria, qu'il ne court pas les jupons, s'il veut travailler sa guitare et tout ça. Voilà. » Mais ce n'était pas un cours de guitare, mais ça m'a suffi pour apprendre à jouer. Voilà. Mmh. Et je ne suis pas un type qui a été l'embêté pour lui demander comment vous jouez ceci ou cela. Hein. Je pense qu'on apprend soi-même dans un autre... On s'imagine que c'est des cours, mais en fait, ce n'est pas des cours, c'est les relations humaines. Moi, un cours, ça me sert à rien, quoi. Je préfère voir un musicien qui joue, je comprends tout. Pourquoi prendre un cours? Je comprends pas. Le guitariste, il joue devant vous. Je parle en public. Mm-hmm. Si on s'intéresse un peu à la guitare, c'est facile de comprendre ce qu'il fait. Pourquoi aller prendre un cours? Il vaut mieux boire un verre avec lui, discuter, de savoir sa pensée, ses émotions, par rapport à ce qu'il a fait avant. Pour moi, c'est le vrai cours. Enfin, c'est comme ça que j'ai pris des cours, moi. Pas des cours, c'est pas des
c'est
cours.
C'est comme ça que c'est fait.
C'est côtoyer, c'est tout. Côtoyer et respecter l'artiste.
C'est comme ça que s'est fait ta rencontre avec les manouches à Saint-Ouen.
Voilà. Et les musiciens sud-américains aussi. On était des collègues, des copains, qui étaient plus forts que d'autres et tout, mais tout le monde se respectait. J'ai jamais insulté un musicien en lui disant « Tu veux pas me donner de cours, t'es égoïste, tu veux tout garder pour toi, machin. » Moi, on me l'a souvent sorti, ça. Ils comprennent rien, ces gens-là. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut déjà être gentil, sympathique. Après, on verra. On attaquait... Moi, c'est mon patrimoine, je le garde. Hein. Je partirai dans ma tombe, il y a des gens qui ne sauront pas s'ils ne me laissent pas s'exprimer. Il y a plein de trucs à développer. Hein. On nous laisse pas le temps, parce que la vie est trop courte. Mais que ce soit le folklore, le jazz, la musique classique, le jazz manouche, tout ça... Plus autre chose encore, la musique en général, quoi, c'est énorme, c'est un jardin énorme, quoi. Et ça, on peut le laisser, si on se sent en paix, quoi, on peut le laisser. Mais si on s'est attaqué, on va rien laisser. Et on sera rien du tout à leurs yeux non plus, parce qu'ils vont penser que on sait rien du tout. Mm-hmm. C'est l'histoire des diplômés, les gens qui ont des diplômes, qui sont bardés de diplômes, et on n'a jamais su qu'ils avaient étudié. Mm-hmm. Et ils sont morts clochards.
C'est vrai. Ouais. Mm-hmm.
Alors que c'était des gens qui avaient une force énorme. Ben, c'est un peu ça, quoi. On n'a rien à prouver, quoi. Voilà, c'est tout. Je ne dis pas que je suis bardé de diplômes, hein, mais c'est un peu ce système-là. Plus vous en avez appris, accumulé, tout ça. J'ai passé des années à écouter du jazz avec un casque, hein, le classique et tout ça. Parce que Baden-Powell disait qu'il y avait 50% d'écoute et 50% de pratique. Et aujourd'hui, les jeunes, enfin d'aujourd'hui, la génération... Il y en a quelques-uns qui sont un peu mal léchés, qui disent « Mais moi, j'écoute rien, moi. Je fais de la musique. Je m'en fous de ce que tu me dis. »« Ah, t'écoutes rien ? » ?»« Eh ben, écoute rien. »« Mais je peux t'écouter, toi ?» Et puis, quand tu l'écoutes, il n'y a pas grand-chose, quoi. Et donc, ça tombe. Mmh. Encore dans le rapport humain, il y a un truc qui ne va pas. On a vécu, c'est quoi ça? Alors qu'on va respecter ce truc-là quand même, c'est pas possible. D'un seul coup, on n'est plus rien pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. C'est pas possible.
On va parler de ton dernier disque qui vient de sortir chez Frémo, qui s'appelle Le Retour. Tu as comme musicien Joël Bouquet, Claude Mouton et Abraham Mansfarol.
Percussionniste cubain.
Percussionniste cubain, exceptionnel. Mmh. Pourquoi Le Retour?
Parce qu'en le fait, retour, non, c'est le nom d'une composition. C'est une bossa nova. Mais c'est pour donner une thématique au disque.
Alors ce disque-là est beaucoup plus tourné vers la musique latine.
Voilà, c'est parce qu'en fait, c'est pas jazz manouche pur. C'est plus axé sur la musique classique, le bebop et la musique latino-américaine. C'est alors... peut-être pour ça le retour d'ailleurs. Parce que c'est le retour à... aux choses que je musique que je faisais avant quoi. Mais j'ai toujours fait en parallèle musique latino-américaine et le jazz manouche.
Alors là, il y a une particularité parce que tu as Joël Bouquet qui est le pianiste. Mmh. Et là, on retourne à des valeurs beaucoup plus jazz avec solos de chacun.
Oui, parce que là, ça devient un quartet jazz quoi, traditionnel en fait. Alors que dans le jazz manouche, c'est la guitare devant. C'est rock'n'roll, c'est... Il faut tout lâcher. Mais c'est vraiment... les gens veulent écouter la guitare de front.
Oui.
Il ne faut pas qu'il y ait un moment où il n'y ait plus de guitare, quoi. Donc j'ai un peu changé d'optique. Là, c'est à quatre. Voilà. Donc le pianiste joue, le bassiste il joue. Ce ne sont pas que des accompagnateurs.
Voilà, c'est ça.
Ce sont des solistes. Et c'est une autre perspective, quoi, musicale.
Alors, on voit dans les morceaux, on a quelque chose de très raffiné. Mmh. C'est un jazz, moi j'ai pris un plaisir immense à l'écouter. Les morceaux sont très raffinés, c'est vraiment du haut vol au niveau du jazz, qui est quand même, il est audible pour tout le monde. C'est un jazz très agréable à l'écoute. Moi j'ai été très amusée par l'arrivée du luth. Gentil Coquelicot, là, les petits coquelicots, qui est très agréable. Et je voulais savoir comment l'idée vous en est venue.
Ah, ça, c'est parce que j'ai eu la chance de connaître Marcel Mouloudji. Et en fait, c'était pour lui rendre hommage, voilà. Comme il était d'origine kabyle, ou je sais pas, enfin, un peu berbère, ou oriental, le morceau a pris dans son hommage à une couleur orientale qui lui était propre à lui-même, parisienne orientale. Mm-hmm. Donc on retrouve un peu tout ça. C'est ce côté avec la darbouka, et puis après ça part en jazz, donc on revient parisianisme, et après on repart dans le désert, c'est super.
Alors il y a quelques morceaux de toi, dont Baraka. T'as pas eu idée à un moment de faire un disque qu'avec tes morceaux?
Si, c'est prévu, mais il faut trouver le temps. Tout est prévu, on peut tout faire. J'avais prévu de faire un album tout seul avec une guitare et peut-être une contrebasse ou un violoncelle, un truc comme ça. La guitare est tellement vaste, il y a de quoi faire. Hein.
Alors, on a l'impression que, par exemple, dans Syracuse, on pense quand même, quand on écoute ce morceau, à Santana.
Bon, ça, c'était pour rigoler, ça.
Et pourtant...
Ça plaît ?
Il est brillant.
Bon, c'était une expérience, ce morceau.
Voilà, ça a été très réussi à ce niveau-là.
Ah bah c'est un, ouais, ça fait un hommage à Carlos Santana.
Alors on t'entend jouer le lead principal, l'air de Syracuse, et puis on t'entend aussi derrière.
Oui, derrière il y a les fioritures acoustiques.
Les fioritures qui sont extraordinaires.
C'est surtout ça, le but c'était ça, c'était de montrer qu'aujourd'hui on pouvait faire de la musique électrique, parce que Carlos Santana, moi j'ai une grande admiration, et si on coupe le courant, il n'y a plus personne. Hein. Donc c'est pareil pour tout le monde d'ailleurs, pour moi aussi. Le truc c'est que la guitare acoustique peut très bien se marier aussi avec des sons électriques. Voilà, c'était juste pour voir ça. Le but c'était un peu d'associer les deux.
On a un titre de Django Reinhardt que tu reprends, qui est micro, et on a surtout de très très beaux morceaux, alors Copacabana évidemment, She's Funny That Way, et puis tu as aussi l'apparition de Sappho pour un morceau. Alors comment est venue l'idée de prendre Sappho comme chanteuse sur un tel album?
Bah parce qu'on a sympathisé, on a fait des bœufs ensemble, et puis je lui ai dit, est-ce que tu veux venir chanter une chanson, voilà. C'est convivial, quoi. C'est tout. C'est pour le plaisir.
Et de votre percussionniste, là, qui est quand même excessivement brillant, t'aurais envie de retravailler avec lui ?
Ah ben, de toute façon, par rapport à cet album, s'il y a des concerts, on est appelé à se revoir. Donc, oui. Mais par contre, bon, il faut que je fasse un autre disque après. Ça sera encore autre chose. Mais on garde toujours les contacts avec les musiciens. Je sais que ce percussionniste, là, Abraham Manfarol, il est avec Charles Aznavour, entre autres. Donc, il bouge beaucoup.
Est-ce que c'est facile de réunir les trois musiciens, parce qu'ils sont quand même très demandés,
Joël Bouquet, c'est pas facile.
Claude Mouton, ouais. Sont quand même exceptionnels en tant que, que musiciens.
Ils sont très, comment dire, très actifs, quoi. Ils jouent là, là-bas, là-bas. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il n'y a plus d'orchestre constitué, plus vraiment. Tout le monde est freelance,
ouais.
Sauf les leaders. Quand on est leader, bon, il faut quand même il faut une assise constante.
Oui. Alors moi je conseille, hein. Donc c'est Rodolphe, moi je vous rappelle le nom du disque, Rodolphe Raffali, Le Retour, avec Joël Bouquet, Claude Mouton et Abraham Manfarol, et c'est chez Frémo. Il est en vente partout, hein. On le trouve à la Fnac très facilement et ailleurs. Et bien écoutez, moi je le trouve excellent. Ça change tout à fait de ce que tu faisais auparavant au niveau de disque.
C'est un clin d'œil.
C'est un clin d'œil que je trouve vraiment excellent.
Mmh.
Sur ce, quelles sont tes prévisions là de concert qu'est-ce que tu dans les prochains mois Qu'est-ce que tu envisages
Pour l'instant, c'est plutôt du café-concert.
Alors tu joues dans quel café? C'est surtout sur Paris?
Ouais, il faut faire rodolphe-raffali.com et c'est marqué dans la page des concerts, il y a les adresses, il y a tout.
Alors je sais que le dimanche soir tu joues au Hall Névy, donc au 150 boulevard Saint-Germain.
Le mieux c'est d'aller sur le site et de prendre les informations directement.
Bon, tout y est, donc allez sur le site de Rodolphe Raffali.
.com. Attaché.
Et vous aurez toutes les informations nécessaires.
Voilà.
Bien, merci beaucoup Rodolphe de nous avoir laissé un petit peu de temps pour parler. Et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt.
Voilà, je voulais rajouter une chose, c'est que on m'a souvent assez dit, le problème c'est ça, c'est quand on a trop la tête dans la musique ou enfin dans son truc, c'est le problème, c'est il n'y a pas que la musique dans la vie, voilà. Parce qu'on m'a souvent dit ça.
Pourtant chez un artiste musicien, il n'y a que ça dans la vie.
Ouais. J'aurais dû répondre, il n'y a pas que la musique dans ta vie, à toi, quoi. Mais à chaque fois, ça m'écrase le cerveau, quoi. Ouais, bon, on aurait mieux fait de vivre sur une île déserte, on aurait été peinards. Enfin, la musique continue.
La musique continue. Merci beaucoup, Rodolphe.
C'est moi, Marion, qui vous remercie. Puis, merci, chers auditeurs.
Merci, et à très bientôt. Ici, Autre Radio, Autre Culture. Au revoir. Autre Radio, Autre Culture.